9h22 minutes. Francine Ruel nous propose un livre, Anna et l'enfant vieillard, qui est un livre bouleversant, touchant, et qui se situe, comme on dit, avant et après l'accident. Je pense qu'on peut le diviser en deux temps, et qui montre qu'il y a des gens qui peuvent traverser une épreuve extrêmement difficile avec une grande résilience, et pour d'autres, c'est tout à fait impensable. Francine Ruel, bonjour.
Bonjour.
L'accident, c'est le moment charnière, évidemment, ouais. Du livre. C'est-à-dire, il y a une vie avant et une vie après.
On appelle ça un accident parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots pour dire ça. Oui, ça a été ce qui a fait basculer sa vie complètement.
C'est-à-dire cet acte criminel.
Acte criminel qui a été, les gens ont été punis, envoyés en prison, pas longtemps parce que on sait comment la loi fonctionnait parce que c'est la période où quand t'es en prison avant, ça comptait double et ces gens-là ont changé d'avocat sur un an et demi à peu près 6 fois. Comme ça, ça retardait. Oui, ça a été un moment, il était entre la vie et la mort, bien sûr, et on a tout fait, tout tenté pour le sortir de là, pour l'aider, pour l'accompagner.
Parce qu'il y a deux ou trois, trois éléments qui m'ont frappé dans le livre. Le premier, c'est de voir la vie d'un enfant avant, parce que tout le long du livre, on fait des retours vers l'enfance, l'adolescence, d'une vie intéressante, d'un petit gars que les parents sont séparés, mais vous en prenez soin, vous faites
les
voyager,
deux.
Faites
voilà.
Découvrir. Puis,
Et pourtant, il y avait ça, et pourtant, il y avait ça, et pourtant, il y avait des bicyclettes, il y avait du monde, il y avait des amis, il y avait des musées, il y avait de la lecture, il y avait des copains, il y avait tout ça. Et ça bascule quand même. Et c'est le propre de, malheureusement, beaucoup de gens.
Ce qui frappe, je me souviens quand c'est arrivé, et souvent dans l'actualité, c'est traité comme un fait divers. Voilà un jeune homme, au mauvais moment, bang, et les blessures sont graves, c'est le fils d'une comédienne connue, et par la suite, on perd ça de vue. On comprend qu'il y a le cheminement physique, là, la convalescence, et là, on découvre dans votre livre tout ce qui a suivi, c'est-à-dire, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont résilients, puis d'autres incapables de l'être. Non.
Il y a des gens qui, je pense, qui naissent avec des ressorts sous les pieds, puis d'autres qui en auront jamais, pour X raisons. Ils sont aussi intelligents, mais ils ont une hypersensibilité et ils sont pas capables. Moi, mon fils est, tout le monde le dit, super brillant, touchant, il veut aider et tout, mais pour lui-même, il n'y arrive pas. Et je connais des gens, moi j'ai connu un gars qui travaillait en publicité, qui était un top, qui a tout perdu du jour au lendemain, femme, enfant, job, toute maison, auto, voyage, et qui s'est retrouvé à la rue. Mais un gars brillant, formidable, et on peut pas, c'est comme la maladie, ça peut nous arriver n'importe quand.
À quel moment on décroche? Parce que vous avez tout fait pour lui, là. C'est-à-dire à plusieurs reprises, ça va de lui passer de l'argent, de lui acheter des vêtements, de lui payer une cure. Et c'est une déception une fois après l'autre. À quel moment on dit là, moi je peux plus rien faire pour mon bien-être personnel?
Je souris à votre question, à partir de quand on lâche? On lâche jamais totalement, je crois.
Okay.
Parce qu'on les aime inconditionnellement. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, d'ailleurs. Pour que si mon fils le lit un jour, il le sait pas, parce que j'ai pas de ses nouvelles depuis 6 mois. Et pour comprendre qui il a été et qu'est-ce qu'il pourrait encore devenir, c'est important, ça. On lâche à partir du jour où on consulte. Moi, j'ai consulté une psychologue qui m'a aidée depuis 2 ans, où je suis allée la voir, puis qui m'a dit « Pourquoi vous êtes ici ?» Et c'est la première phrase du roman. « Je suis ici parce que je dois faire le deuil d'un enfant vivant et je ne sais pas comment on fait ça. » Donc, à partir de là, on coupe le robinet de l'argent parce que c'est trop fragile, ça ne donne rien. Et elle m'a appris que je l'infantilisais. C'est-à-dire que je ne le rendrai jamais autonome si je fais les choses à sa place. Et la dernière étape...
Mais c'est déchirant, ça.
Oh, c'est
pour une mère, là, de dire...
C'est la première fois que j'en parle, les gens le savent pas, mais mes propres amis m'ont appelé en fin de semaine parce qu'ils me demandaient des nouvelles de mon fils et je disais, ben, il est dans une période difficile, mais je donnais pas de détails. Mais on sort plus, on fréquente plus le monde parce qu'on va rencontrer des gens qui vont se gargariser avec bonheur de dire, ma fille a un job formidable.
Ça, j'ai lu ça. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? C'est vrai que des gens vous étalent leur bonheur.
Mais on fait, tout le monde fait ça. On est tellement fiers de nos enfants de dire, oh, il est rendu à telle université, il a tel job, il gagne ci, il travaille en Californie, etc. Et quand on arrive à toi, elle dit, et ton fils, comment ça va?
Vous répondez quoi?
Ben, tu défais le party en disant, il vit dans la rue. il s'en sort pas, ou tu fermes ta boîte, ou tu refuses les invitations, ou tu te montres pas, ou parce que c'est trop dur à supporter. C'est trop difficile. Mais on les aime. Puis il y en a qui s'en sortent. Je connais quelqu'un, le fils a été, je pense, 3 fois en désintox. Il vient d'être reçu avocat. La différence près, il y a dans le début de la trentaine, le mien est plus vieux. Alors, c'est complexe. Parce que la vie, c'est la rue, c'est un endroit très, 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 très dur. Pour les maladies, pour la violence, pour... T'es tout seul, t'as chaud, t'as froid, tu gèles, tu sais pas si tu vas manger. Et je pense que ce que j'ai voulu dire, dire à Anna, c'est tout ça. C'est l'impuissance d'un parent face à cette violence-là. Comment les enfants peuvent vivre là-dedans? C'est pas pour rien qu'ils gèlent, là, je pense. C'est pas pour rien que ces gens-là se gèlent.
Il y a eu des moments quand même touchant avec lui. Même depuis qu'il est dans la rue, racontez, je me souviens d'une scène au restaurant où ses amis viennent vous voir un après l'autre, des gens, ses connaissances et tout ça. C'est particulier. On ne connaît pas ça, la rue. Moi, je ne connais pas ça. Mais de voir qu'il y a une communauté quand même qui a l'air d'exister.
D'exister, oui. Ce que j'ai mis dans le roman, quand le petit garçon vient lui porter son cochon avant Noël, c'est vrai ça. Et mon fils s'est dit, j'ai pleuré, j'ai gardé le cochon et je n'étais pas capable de le casser pour prendre les sous qu'il y avait dedans, mais je n'avais besoin pour manger.
Puis il voulait pas au début parce que c'était un enfant.
Il a dit, c'est un enfant. Il a dit aux parents, non, je peux pas accepter son petit cochon. Puis les parents ont fait, non, faites pas ça. Ça fait 1 an qu'il ramasse ses sous pour le donner à quelqu'un de la rue et il vous a choisi, vous. Faites-lui pas ça.
Quand vous vous promenez à Montréal, avez-vous peur de le croiser?
Je meurs tous les jours. Je viens pas souvent à Montréal. Heureusement, je suis protégée un petit peu. Je vis à la campagne. C'était un choix de m'éloigner aussi de la grande ville pour pas avoir à répondre à ses besoins immédiats. Quand tu vis à la campagne à 1 heure maintenant, avec comment est Montréal, c'est rendu 2 heures. Fait que je peux pas y aller tout de suite. Moi, ça me protège aussi de pas sauter dans mon char puis dire j'arrive pour te sauver, là. J'arrive pour t'aider. J'ai été obligée de faire violence et de faire ça. Mais quand j'arrive à Montréal, j'ai la mâchoire serrée, je serre les mains autour du volant parce que je ne sais pas si je le verrai pas.
À une intersection ou dans un parc.
Avec un petit cop pour réclamer des sous. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne s'explique pas, je pense. Ça fait mal tout le temps. Et on y pense tout le temps. Moi, quand il fait trop chaud, j'y pense. Quand je me lève le matin puis je vois qu'il pleut à bord de bois, j'y pense. Quand je regarde la télé puis j'ai écouté la météo, puis le gars de la météo a dit qu'il va faire, avec le facteur 20, il va faire moins 40 cette nuit. Je ne dors pas beaucoup.
Toujours la crainte de se faire réveiller aussi, j'imagine.
Oui, le téléphone est en permanence à côté de moi au cas où. Ça peut arriver n'importe quand. C'est une réalité. On espère juste qu'ils vont trouver l'espèce de petit ressort. J'ai travaillé avec quelqu'un de l'accueil Bonneau, un monsieur formidable, qui m'avait dit, écoutez, ma pauvre madame, vous êtes la pire pour l'aider. Vous êtes la moins bien placée. Laissez-nous faire, on connaît ça. Et il m'a expliqué que lui sortait de la rue, qu'il a refait des études, puis qu'il est devenu travailleur de rue, travailleur social, et qu'il aide les autres. Il faut que ceux-là, il faut qu'ils veuillent. Nous, on veut plus. Mm-hmm. Ma psy m'a répété pendant 2 ans,
là,
j'ai fini par
souvent
comprendre. Laissez-lui sa vie, redonnez-lui sa vie et reprenez
mais
la vôtre.
Mais on entend souvent la phrase, il faut qu'il se ramasse dans les bas-fonds, qu'il se tombe au plus bas, sinon il ne remontera pas. C'est-tu vrai, ça?
Oui, il paraît.
Le croyez-vous?
Oui. Oui, je pense qu'on comprend quand on est rendu. Mais moi, j'étais rendu au plus bas, là, j'en pouvais plus, là. Je savais plus quoi faire, quoi inventer pour le sortir de là. Et là, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que justement, il fallait que je fasse rien, à part l'aimer, l'écouter, l'aimer. Parce qu'on le fait à leur place. Moi, j'ai dit à mon fils, à un moment donné, regarde, j'ai pris des décisions pour toi. Je t'ai envoyé en désintox, j'ai essayé de te trouver un appartement, j'ai fait telle affaire, j'ai mis tes meubles dans un garde-meuble, j'ai fait ci, mais t'es casse à chaque fois, t'es défait. T'en veux pas. Donc, je prends pas les bonnes décisions. Et j'ai osé dire, ça m'a pris du temps, mais j'ai osé dire, regarde, à partir de maintenant, tu prends tes propres décisions. Ça va être les bonnes. Ça va être les tiennes pour toi.
Vous l'avez dit tantôt, il y a des gens à qui ça arrive avec un fils ou une fille là, de 15 ans, 20 ans, 22 ans. Votre fils a quoi aujourd'hui?
44. Mais il y a 16 ans dans sa tête, 17 ans. D'où le titre « Anna et l'enfant vieillard ». Voilà.
44 ans.
Oui. Oh, je l'ai porté à bout de bras 30 ans au moins. Là. Et je suis fatiguée. J'ai eu un cancer il y a 5 ans. J'ai fait « Oups ». Regarde, il ne m'en reste pas tant que ça à vivre. Là. Fait que,
c'est vrai que vous l'avez gardé. Vous n'êtes pas le genre à parler de ça publiquement.
Non.
Vous
avez... Mais pour lui aussi, pour le protéger, ouais. Parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que je pense que quand on est un enfant de parents connus, quel qu'il soit, politicien, artiste, etc., c'est comme si nous, on prend le devant de la scène devant eux. Et lui, il y avait un drame à vivre. Il n'était pas capable d'en parler aux journaux et tout, mais il n'avait pas envie que ça soit moi qui... J'avais pas envie de m'accaparer ça non plus. On ne veut pas ça. Mais ça fait qu'ils sont comme en arrière de nous encore. Fait que je me suis tassée. J'ai fait de garde, je vais faire ma vie. J'écris, j'enseigne, je joue peu en vieillissant. Mais bon, je fais ma vie puis pour que lui ait sa place aussi. C'est important de leur laisser leur place, quoi.
Je ne connais pas votre fils, là, mais les répliques que vous lui donnez dans le livre, il y en a qui sont extrêmement touchantes. Quand il s'interroge, il s'inquiète pour vous, sur votre état de santé. On sent une sincérité, cette préoccupation. Oui. Est-ce que vous avez...
C'est un garçon gentil qui veut sauver la planète. Lui, il veut sauver la veuve et l'orphelin depuis qu'il est petit. Je raconte dedans une scène où Arnaud est avec sa mère à Paris et il veut... c'est à l'époque des centimes, je ne sais pas comment de centimes. Moi, j'ai donné à mon fils pour qu'il aide les sans-abri. Et je me suis dit, après, est-ce qu'il savait qu'un jour, il serait là, lui? Mais il est comme ça. Fait que c'est pas du monde méchant. On ne sait pas qui sont ces gens-là. Ils ont perdu pied... Ils ont de la difficulté à s'en sortir. Ils ont un mal-être. Et on n'en parle pas beaucoup. Je fais dire à Anna, Anna demande à sa psy, est-ce que ça serait mieux si j'avais un enfant différent? Genre, la psy dit genre quoi? Ben, elle dit, ben, je sais pas moi, trisomique, autiste, paraplégique. Parce que socialement, c'est accepté.
Oh, il y en a qui vous diront que c'est encore difficile.
Encore difficile, mais on dit, c'est pas de sa faute, il est malade. Mm-hmm. Mais s'il est dans la rue, c'est un pouilleux, c'est un drogué, c'est un paresseux.
Pour en avoir rencontré quelques-uns...
Mais il y a un mal-être effrayant chez ces gens-là.
J'ai toujours été fasciné du parcours de ces gens-là.
Oui, on serait étonné.
C'est pour en avoir interviewé quelques-uns, pour avoir jasé avec eux, puis tu dis le point, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant?
Ben écoute, il y a des sommités dans la rue, là. Il y a des gens qui ont eu ce qu'on a ou qui ont eu plus que nous même encore et puis qui, tout à coup, perdent de pied. C'est fragile.
Vous avez reçu beaucoup de commentaires depuis la publication d'articles en fin de semaine. Ouais. Qu'est-ce que les gens vous disent?
Bien ça, moi je découvre que je ne suis pas la seule et eux découvrent qu'ils ne sont pas les seuls. Puis ils n'en parlent pas, puis ils n'osent pas en parler non plus. C'est de dire que j'ai une fille, j'ai un fils, mon frère. C'est tous les gens qui s'enlèvent la vie, tous les gens qui se suicident à petit feu dans la rue, c'est un suicide à long terme, là, qui est sans fin, là. Il y en a tellement plus. Il y a une phrase dans le roman, parce que j'en parlais dans un article. Anna dit, j'ai l'impression de me promener dans un cimetière sans corps à mettre en terre. Mais c'est ça. Les gens dont les enfants ont disparu, ils lâchent pas prise, ils sont pas capables de lâcher prise. Avis-tu encore? Es-tu torturée? Es-tu bien? Es-tu heureuse? As-tu des enfants? Vas-tu penser à m'appeler un jour? Il y a ça. Écoute, il y en a. J'ai été... Mais vraiment, je suis tombée à terre de comprendre cet appel-là de gens.
C'est un livre extrêmement touchant.
Merci.
Et avec des phrases qui, après une seule lecture, nous restent en tête. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Francine Ruel, Anna et l'enfant vieillard, c'est publié chez Libre Expression, 9h37, pause et on vient après avec le sujet de Tribune téléphonique.